tête. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à la première épisode de la French Connection. Donc, c'est un nouveau concept avec le slogan « La sécurité sans frontières ». Donc, on a avec nous aujourd'hui Nicolas Loïc, qui est de Québec. Salut Nicolas.
Salut.
On a Richer, qui est entre Québec et Montréal à quelque part. Salut Richer.
Salut.
Et Guillaume Ross de Montréal. Salut.
Salut tout le monde.
Et du côté international, aujourd'hui avec nous, on a Paul.
Salut.
Bonjour Paul. On a deux autres personnes, mais qui sont absentes aujourd'hui. Donc, on a Damien de Zataz et Paul Amar, qui lui va être à Londres. Ils ne pouvaient pas être ici aujourd'hui, mais ils vont se joindre à nous dans les prochains podcasts. Donc, podcast de sécurité informatique, hacking en français pour rejoindre le plus de personnes dans la communauté francophone. Donc, le concept du podcast va se dérouler en plusieurs segments. On va commencer par les nouvelles locales Québec et Europe, nouvelles internationales, suivies par des segments techniques, segments malware. Et ce format-là devrait suivre dans les prochains podcasts aussi. Donc, je vais commencer en laissant la parole à Guillaume avec une première nouvelle internationale.
Oui, donc, la première nouvelle qu'on a, donc, vous allez avoir les liens dans les show notes, c'est de la recherche que l'équipe de recherche chez Rapid7 a fait par rapport à Extra Bacon, qui est le nom du kit de la NSC pour exploiter les routers Cisco ASA. Donc, on a fait de la recherche, donc chez Rapid7, on dit « on », je n'étais pas impliqué directement avec ça. On a regardé tous les routers Cisco, on les a scannés pour savoir combien étaient encore potentiellement vulnérables à Extra Bacon. Donc, c'est assez difficile de savoir en scannant de l'externe sans authentification si un router ou un firewall Cisco est vulnérable. Mais il y a une façon qui est quand même assez logique, mais c'est d'utiliser un HPing puis de déterminer le uptime d'un Cisco. Donc, effectivement, si quelque chose n'a jamais été redémarré depuis que la patch existe, c'est vraisemblablement vulnérable. Donc, ce qu'on a vu, c'est que dépendant du type d'industrie, le uptime varie beaucoup d'une industrie à l'autre. Donc, par exemple, on a un gros fournisseur de téléphonie japonais où l'uptime est généralement de 38 jours, alors qu'on en a un autre en Suède où le uptime est de 8 jours. Donc, eux semblaient soit patcher de façon beaucoup plus rapide ou ne pas avoir de UPS puis avoir de sévères problèmes de stabilité. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il en reste encore vraiment beaucoup des routers Cisco qui seraient encore vulnérables. C'est pas le genre de choses que les entreprises qui n'ont pas une équipe de sécurité dédiée patchent vraiment rapidement. Donc, c'est pas très surprenant, mais beaucoup de statistiques très, très intéressantes. Donc, si vous gérez des devices Cisco, vous devriez regarder ça, voir comment vous vous comparez par rapport aux autres types d'entreprises. Donc,
intéressant. Est-ce qu'il y avait une différence entre le nombre que vous avez trouvé et celui sur Shodan, ou c'était pas mal similaire?
Faudrait que je compare les. Est-ce que tu connais par cœur le chiffre sur Shodan?
Non.
Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'aussi on les a séparés par différentes organisations. Donc, vous n'avez pas les noms des organisations, mais plutôt une description. Là. Donc, par exemple, on dit qu'il y a un Large Canadian University, une université canadienne, qui avait 16 router Cisco qu'on a pu voir, puis qui sont disponibles avec un uptime moyen de 21 jours. Donc ça, c'est vraiment un séparé par entreprise ou par organisation, même si vous n'avez pas le nom qui est là. Donc ça vous permet vraiment de comparer différents types d'entreprises. Mais oui, ça serait intéressant de comparer avec Shodan pour voir la différence dans les méthodes de scan. Peut-être qu'eux en ont découvert que nous, on n'a pas vu et vice-versa. Mais toutes ces données-là viennent de Sonar de Rapid7, qui a beaucoup de données open source que vous pouvez télécharger. Donc, par exemple, on fait un scan sur toutes les IP, IPv4 sur le port 443. On a des bases de données avec tous les certificats qui sont disponibles là-dessus. Fait qu'il y a vraiment beaucoup d'informations qu'on peut aller chercher de là. Donc, si vous aimez Shodan, vous aimez ça scanner Internet au complet, puis vous aimez ça travailler avec des grosses données, c'est juste un exemple du genre de choses que vous pouvez faire avec Project Sonar.
Super. On va transférer avec Nicolas pour une autre nouvelle.
Ben moi, essentiellement, c'est trois nouvelles en une. C'est dans le fond l'annonce de trois nouveaux produits qui sont relatifs à la sécurité, c'est-à-dire le 19e anniversaire de Nmap, qui est l'outil, je pense, clé pour pas mal d'entre nous. On vivrait probablement pas bien sans ça. La distribution Kali qui vient de sortir une nouvelle release pour 2016. Et finalement, OpenBSD version 6 qui vient d'être rendue disponible avec encore une foule de choses. Goodies, sécurité comme d'habitude.
Oui, ils ont remis encore plus le focus sur la sécurité. Donc, ils ont même enlevé le support Linux, je crois. Donc, de plus en plus intéressant.
Oui.
Excellent. Paul, il y avait une nouvelle qui fait quand même jaser beaucoup, un leak de données.
Oui. Oui, donc un leak de Brazzers, donc évidemment personne ne connaît, mais qui est un site d'hébergement de films pornographiques, avec un leak de 800 000 comptes d'utilisateurs qui auraient été faits en 2012-2013. Et là, on a de notre côté des choses assez drôles, c'est que on notifie certains des utilisateurs, et après, il va falloir expliquer aux gens la communication en interne quand on leur donne la liste de leurs utilisateurs qui avaient des comptes sur ce type de forum. Donc ça, chez nous, ça fait pas mal de bruit sur la presse et également dans la communauté sécure, on va dire.
Excellent.
Et sur les autres actualités là, qui touchent plus particulièrement la France, c'est deux nouvelles en une. C'est en fait, il y a quelques jours, début de semaine ou fin de semaine dernière, Bernard Barbier, donc l'ancien chef de la direction technique de la DGSE, donc Direction Générale de la Sécurité Extérieure en France, a fait une conférence devant son ancienne école. Et il a expliqué devant les élèves que, a priori, en mai 2012, l'Élysée avait bien été ciblée par la NSA entre les deux tours des élections. Et dans la même conférence, il a également confirmé que le malware Babar que j'avais réalisé il y a quelques mois, années maintenant, avec Marion et Johan, serait bien d'origine des services français, et chose qu'on avait déjà devinée, on va dire, et qui sont a priori maintenant confirmées. Donc c'est vraiment une actualité qui a même fini dans la presse mainstream, aux journaux télé et compagnie.
Super intéressant, merci. Pour continuer dans des nouvelles locales, mais Québec, deux choses, donc une qui date de hier, en fait, le 6 septembre. La commission scolaire des Appalaches qui était victime d'une attaque informatique, de la manière que c'est décrit, ils disent qu'ils ont perdu accès à plusieurs systèmes qui n'ont pas capables de fonctionner sur environ 95% de leur système. Ils ne donnent pas les détails, c'est vraiment de haut niveau, mais ça semble vraiment pointer vers un ransomware ou quelque chose comme ça, et non pas juste un vol de données ou des mots de passe qui auraient été changés ou quelque chose comme ça. Ça semble vraiment comme sont bloqués de leur système. Et ça va pas bien du tout dans le sens que la commission scolaire, la plupart des cours et autres, c'est bloqué.
Ouais, je pense que tu as raison quand tu dis ça ressemble vraiment à du ransomware, parce que au début, je me disais c'est peut-être une attaque de déni de service quelconque, mais j'ai vu qu'ils disent qu'il y a 18 serveurs qui sont atteints puis que c'est 95% des données qui sont inutilisables.
Oui, je n'excuse pas des serveurs, mais des données en tant que telles. Donc,
fait que ça pointe vraiment,
les
exactement.
Données, ils sont sûrement encryptés ou quelque chose comme ça. Puis on sait que c'est très simple là, d'exécuter des ransomware à l'intérieur de des entreprises. Il s'agit d'un clic et d'un serveur connecté en distance et c'est final.
Ouais, surtout dans un environnement scolaire où les permissions sur les dossiers partagés doivent être quand même assez ouvertes, pas nécessairement très précises. Là, il s'agit qu'une personne ait exécuté ça, puis ça n'a pas dû être très long.
Exact. Une autre qui a été très, très, très discuté sur les réseaux sociaux et même sur notre Facebook du Hackfest. Je pense que c'est une des nouvelles qui a eu le plus de clics dans les derniers mois. C'est la loi 74, qui est dans le fond le gouvernement du Québec qui veut censurer, bloquer des sites Internet des jeux en ligne, principalement les casinos et autres, pour forcer le public à utiliser leurs jeux en ligne. Le CRTC est revenu en disant que c'était pas légal de faire ça, qu'ils ne pouvaient pas forcer les fournisseurs Internet à décider de ce qu'ils devaient bloquer ou non. Donc, c'est un premier pas vers l'étape de la bonne nouvelle dans ce cas-là, en espérant que ça continue dans ce sens-là.
Oui, surtout que le Québec disait que c'était aussi une question de santé publique parce que ça avait rapport aux jeux pathologiques et tout ça, quand en réalité, c'est vraiment censurer Internet 100% pour des raisons de profit. Puis bon, on sait quel autre pays censure Internet, puis on sait où est-ce que ça mène dans à peu près tous les cas. Puis ce que je trouvais qui était vraiment intéressant aussi, c'est que la loi était supposément en application, mais on a dit qu'on forçait pas les fournisseurs Internet à l'appliquer tout de suite. Mais il n'y avait aucune information qui était disponible sur qu'est-ce qui allait considérer comme étant bloqué ou pas. C'était extrêmement vague. Donc, est-ce qu'il fallait faire du blocage DNS? Qu'est-ce qui se passe avec les VPN? Qu'est-ce qui se passe avec les proxys? T'sais, même d'un niveau technique, ça aurait été tellement facile de contourner cette loi-là.
Ouais, c'est ça le pire, en fait. Ouais.
N'importe qui aurait vraiment voulu accéder à ces sites-là aurait continué de le faire, puis tous les fournisseurs d'accès Internet auraient été obligés de mettre en place un paquet de trucs, dépenser de l'argent, tout ça pour rien, puis on aurait maintenant fait partie de la liste des pays où Internet est censuré. Donc, je pense que c'est une très bonne nouvelle que le CRTC s'en mêle.
Mais juste pour information, oui. Sur la France, on a déjà eu ce type de choses et aujourd'hui on a des sites qui sont filtrés, principalement tout ce qui est lié au terrorisme, pas les jeux d'argent, je crois pas. Et la technologie mise en place, c'est simplement du filtrage DNS au niveau des fournisseurs d'accès.
Et donc si on utilise des DNS... Mais ouais. C'est sur une base volontaire. Les fournisseurs d'accès Internet ne sont pas obligés de
D'accord. Filtrer. Ici, ils sont obligés. Et du coup, par contre, si vous utilisez les DNS de Google pour ne pas les citer, ça passe outre tous les blocages.
Donc 8.8.8.8 n'est pas un crime.
Non, pas en France.
C'est ça le problème de cette situation-là. D'un, c'est extrêmement facile à contourner. Je veux dire, s'il y avait la loi avait passé, il y aurait eu des sites web, des nouvelles et autres qui auraient dit comment le faire. Vous savez comment en Europe, on l'aurait su ici, même pour le grand public, assez rapidement. Mais en même temps, c'est surtout que ça ouvre une porte qui peut mener vers tellement de problèmes ou de futures censures ou de décider, ben, telle entreprise est québécoise, on va bloquer tous ses compétiteurs. Ben,
censurons le site du Hackfest parce qu'il explique comment faire un bypass DNS.
Ah, exact. ça peut être assez ridicule comme tournure des choses. Donc, on est bien content que ça s'enligne vers la bonne direction. On va continuer avec une nouvelle internationale. Un des portails, en fait, le plus grand portail en ligne de la Russie qui a été piraté, qui est similaire en fait au site web vk.com comme un réseau social. Son nom c'est Rambler. Mais ce qui est intéressant de cette faille-là, un peu comme Brazzer qu'on parlait tantôt, c'est que ce qui a été leaké, les données qui ont été volées, datent aussi de 2012. Puis ça regroupe environ 98 millions de comptes qui auraient été volés. Mais dernièrement, il y a un des hackers qui a resoumis au site web LeakSource 43 millions de records d'une autre source qui daterait aussi de 2012. Donc, il y a beaucoup de leaks qui ont été faits dans les dernières années, qui refont surface, qui se diffusent. Aucune idée dans quel objectif encore. On va sûrement voir ça. Dans ce leak-là, il y a des Oui, vas-y.
Ouais, le leak de la NSA théorique aussi est à plusieurs années de retard.
Oui, oui, effectivement. Ça fait plusieurs qu'on voit. Donc, ça pointe vers peut-être un exploit spécifique qui date de ces années-là, qui ont attaqué plusieurs gros sites puis qui ont gardé ça en pouvoir pour releaser plus tard ou utiliser pendant quelques années. Les mots de passe étaient pas mal tous encryptés, Mais évidemment, avec tout ce qui est cracking de mots de passe, ils se sont bien rendus compte que les mots de passe n'étaient pas saletés. Donc, ils ont été facilement trouvés tous les mots de passe par défaut, comme les 1, 2, 3, 4, 5, 6 et autres.
Mais est-ce qu'il était haché? Il n'était pas encrypté, il était haché, right?
Haché, sorry, yes. Donc, un autre de plus dans la liste des leaks. Il y en a presque 2, 3 par mois. Donc, on risque d'en parler encore dans les prochains épisodes. C'est intéressant.
On va pouvoir créer un segment leak.
Segment leak. Parlant de segment, ben passons au premier segment technique avec Guillaume.
OK, parfait. Donc, cette semaine, le segment technique va être du côté défensif. Donc, je voulais vous parler d'un outil qui fait partie de Windows, mais qui n'est pas installé par défaut, qui s'appelle FSRM pour File Server Resource Monitor. Normalement, c'est un outil pour les administrateurs de système pour limiter surtout l'utilisation des ressources que chaque client peut effectuer sur un serveur de fichiers. Donc, par exemple, faire du genre de QoS sur un file server. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait de ransomware tantôt. C'est quelque chose qui est très spécifique quand il y a une infection par ransomware puis que les fichiers commencent à se faire encrypter. Puis ça, c'est que la plupart des ransomware renomment les fichiers quand ils les encryptent. Puis peu importe s'ils les renomment ou pas, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de writes sur le file server parce que chaque fichier qui est encrypté, automatiquement, ça veut dire qu'il faut qu'il soit écrit. Donc, en utilisant FSRM, c'est assez facile de créer des règles pour être capable de détecter un PC puis un usager spécifique qui est en train d'encrypter un paquet de fichiers. Puis à partir de ce moment-là, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on peut envoyer des emails, on peut avoir une alerte, mais on peut aussi exécuter une commande sur le serveur de fichiers. Donc, par exemple, faire un netstop. Donc, ça vous permettrait, dans certains cas, de simplement mettre à off le serveur de fichiers si vous pensez qu'il y a une attaque de ransomware qui est en train de se passer. Donc, seulement avoir quelques fichiers à aller recouvrir sur des backups versus le serveur au complet ou 95% des données, comme on disait tantôt, pour la commission scolaire. La seule chose à faire attention, évidemment, c'est que ça peut ouvrir la porte à des attaques de déni de service s'il y a quelqu'un qui le sait. Mais je dirais que si quelqu'un est capable d'écrire sur vos file server, il y a beaucoup d'autres façons de faire une attaque de déni de service. Donc, dans les show notes, on a un lien assez générique vers FSRM qui explique toutes les fonctionnalités, puis un lien un peu plus spécifique qui explique justement comment mettre en place les alertes puis les commandes à exécuter quand on détecte une attaque de ransomware. Donc, vraiment intéressant. Puis, tu sais, des protections comme ça qui sont gratuites, qui utilisent juste des outils qui viennent avec des systèmes d'exploitation, qui augmentent pas vraiment la surface d'attaque. Je trouve que c'est vraiment les meilleures manières de se protéger sans être obligé de dépenser beaucoup, puis surtout augmenter la surface d'attaque. On sait les antivirus puis tout ce genre de logiciels-là à quel point ils sont pas très sécuritaires dans certains cas. Donc, je vous recommande fortement d'aller regarder ça.
Non, c'est vraiment intéressant dans le sens que c'est une meilleure recommandation que juste dire faites des backups. Je veux dire, ce qui est une bonne chose, mais en même temps qui est tellement générique.
Ben, c'est sûr
la chose qu'on entend toujours parler.
C'est ça, ça remplace pas du tout le backup, sauf que j'aime beaucoup mieux avoir à faire un restore de 14 fichiers que de le serveur au complet. T'sais. Ça va être moins de downtime. Yes. Puis moins il y a de fichiers qui sont encryptés, moins il y a de gens qui sont pas capables de travailler en même temps. T'sais. Donc, si on a juste quelques dossiers utilisés, par exemple, juste par un département de comptabilité, ben, peut-être qu'il y a 12 personnes qui peuvent pas travailler. Mais si le serveur au complet y passe, c'est peut-être 580 personnes qui peuvent pas travailler. Donc, ça vaut la peine.
Excellent. Ça fait pas mal le tour de nos segments techniques. Le prochain segment, c'est le segment malware avec Paul. Donc, je te laisse introduire le concept qui va être plus défini dans les prochains podcasts.
Oui, donc sur le segment malware, on verra plusieurs choses, aussi bien comme pour le segment technique de l'outillage, des outils qu'on va utiliser pour de l'analyse de malware ou tout ce qui est lié à l'analyse de documents malveillants ou autres, ou bien quand ce ne sera pas des outils, ce sera des analyses ou des nouvelles tendances ou des nouveaux types de vecteurs d'infection que les exploitants utilisent ou que les distributeurs de ransomware utilisent et rester assez dans l'actualité en quelque sorte du malware.
Excellent. On regarde pour avoir pour le prochain épisode pour voir notre premier segment malware. En terminant nos shameless plugs, donc le podcast est powered by agfest.ca. Donc on vous incite et invite à aller vous inscrire au Agfest qui aura lieu les 4 et 5 novembre prochains, mais aussi à nos formations, dont une que Paul offre sur les malwares, l'analyse de malware, les 1, 2 et 3 novembre prochains. Donc, Paul, si tu avais un petit mot sur ça aussi.
Oui, donc, comme tu l'as décrit, ça va parler malware. Donc, le but, ça va être de voir les différentes familles, les vecteurs d'infection, analyser des documents malveillants, des fichiers Word malveillants, etc. Et également toute la partie reverse, où on va faire nos premiers pas dans le reverse pour ceux qui n'en ont pas fait, avec l'API Windows, le x86, un petit peu de 64 bits pour voir les différences, et analyser notre premier malware, où là je vais choisir un ransomware. Et on va analyser ce ransomware, comprendre comment il chiffre les fichiers, comprendre la faiblesse dans ce chiffrement de fichiers, et après pouvoir avoir un script pour le déchiffrer toutes les images qui auront été chiffrées par celui-ci. Donc voilà un peu le plan sur les 3 jours de formation.
Excellent. Très hâte de voir ça. Donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire à la formation, simplement aller sur le site dans le menu formation. Donc, ça fait le tour pour nos sujets d'aujourd'hui pour le premier épisode. On vous remercie toute l'équipe et on se revoit dans quelques semaines. Merci tout le monde.